voulu savoir ce que c'était exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Sa silhouette est reconnaissable entre mille chapeaux mous, blousons de cuir et grands fouets. Ce héros allie la ruse au cynisme, la nonchalance au courage, la droiture morale à la maladresse. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Il s'agit d'Indiana Jones, dont la première aventure, Les Aventuriers de l'Arche Perdue, a 40 ans cette année. En 1981, le cinéaste et producteur George Lucas, le réalisateur Steven Spielberg, révolutionnait Hollywood avec ce premier opus d'une saga qui en compte 4 et bientôt un cinquième film. En donnant naissance à Indiana Jones, il crée un héros universel, figure la plus aimée du cinéma, une icône pop déclinable en produits dérivés et jeux vidéo. Pour en parler, nous recevons en studio Antoine Coursat, bonjour.
Bonjour.
Avec Clélia Cohen, vous êtes l'auteur d'un documentaire, Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu, disponible sur le site arte.tv. Et Clément Safra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, réalisateur et vous avez publié un dictionnaire Spielberg en 2 tomes compacts et très précis aux éditions Vendémiaire. Le fameux fouet, accessoire indispensable d'Indiana Jones qui lui permet de se sortir des situations les plus folles ou dangereuses. Indiana Jones, qui a depuis son apparition sur les écrans en 1981, séduit le monde entier. Alors on sait bien sûr que c'est Steven Spielberg, le réalisateur des 4 et bientôt 5 films de la saga. Mais vous rappelez, Antoine Coursat, que le personnage émane d'un George Lucas alors en plein repos sur une plage de Hawaï en 1977.
Voilà, exactement. Indiana Jones, c'est une idée de George Lucas qui a imaginé, comme ça, raconté un jour l'histoire d'un aventurier qui irait à la recherche d'artefacts et à qui il arriverait tout un tas d'aventures. Mais il ne s'appelle pas encore Indiana Jones, il s'appelle Indiana Smith. Et il se trouve que après Star Wars, qui a été le premier, qui a été pour lui une aventure très difficile, il est parti se reposer à Hawaï. Spielberg le rejoint pour passer quelques jours de vacances et lui parle de sa frustration de ne pas pouvoir, d'avoir été refusé pour réaliser un James Bond, parce qu'il n'est pas anglais. Et George Lucas lui dit « Mais pourquoi tu veux faire un James Bond ? J'ai mieux, j'ai Indiana Smith ». Et Indiana Smith va évoluer jusqu'à devenir notre Indiana Jones.
Et Indiana, pour la petite histoire, à un moment dans le documentaire, vous dites que c'est le nom de son chien.
Voilà, Indiana, c'était le nom du chien de George Lucas, qui était une sorte de gros chien très poilu, qui, je pense d'ailleurs, a aussi servi de modèle pour Chewbacca dans La Guerre des Étoiles. Et comme Indiana Jones lui-même va avoir toute une biographie qui va se construire au fur et à mesure du temps, on va apprendre dans le troisième opus que Indiana, c'était le nom de son chien quand il était enfant. Donc voilà, il y a un parallèle entre la vie de George Lucas et celle du personnage.
Clément Safra, avec cette saga, George Lucas qui sort, donc on le disait, hein, du tournage, d'un tournage éprouvant, hein, de Star Wars, il veut rendre hommage en fait aux serials. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'est des films à petit budget de l'âge d'or de Hollywood?
En fait, ce sont des films de série B des années 30 et des années 40 qui donc mettent en scène des personnages, des héros d'aventure, hein, que ce soit dans le domaine comme ça de l'aventure exotique que Indiana Jones va reprendre, mais également dans d'autres univers de fiction comme la science-fiction, le space opéra, dont en fait Star Wars aussi est un petit peu l'héritage. Et c'est vrai qu'il faut beaucoup insister dans le cas d'Indiana Jones sur la double paternité du personnage et du film, du premier film et de la série de films entière. C'est vrai qu'on a tendance à l'associer naturellement directement à Spielberg, mais George Lucas en est tout autant l'auteur. Ce qui est intéressant avec ces films, c'est que c'est vraiment des films à quatre mains où les deux inspirations, les deux obsessions, les deux envies en fait des cinéastes vont se rencontrer pour cette création nouvelle.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, ils ne sont pas tout à fait à égalité à Hollywood. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est un peu au fait de sa gloire. Hein. Bien sûr, c'est George Lucas après la guerre des étoiles. Et lui, Spielberg, après avoir été le Wonder Boy hein, de Hollywood, puisqu'il avait fait, bien sûr, cet immense succès des Dents de la Mer, est un peu dans le ressac de la vague. Il a fait 1941, ça n'a pas très bien marché.
Voilà, c'est
il y a eu des dépassements de budget énormes.
La réputation de Spielberg est un petit peu double à ce moment-là, hein, parce que c'est d'ailleurs très très bien montré dans le documentaire d'Antoine et Clélia. C'est que c'est vrai qu'il a enchaîné donc ces succès extraordinaires, uniques, planétaires, Les Dents de la Mer, ensuite Rencontre du Troisième Type, et puis finalement ce quatrième long métrage qui est 1941, qui était une comédie à gros budget, qui est donc n'a pas rencontré son public. Et donc Spielberg a cette réputation d'une sorte de dépensier extraordinaire qui faisait exploser des budgets, qui utilisait des centaines de jours de tournage avec des moyens délirants. Et c'est vrai que lui-même n'en était pas forcément très satisfait, lui qui venait de la télévision, qui venait d'un style où on tournait plus rapidement, et c'est vrai que cette envie-là de tourner les films rapidement, avec sur le vif, un petit peu comme ça, en suivant une forme d'inspiration sur le moment, comme ça, va très bien se recouper avec le projet Indiana Jones, hein, qui a cette notion vraiment en lui de faire une série rapide avec des moyens plus légers. Alors c'est vrai que le résultat va être un petit peu différent des attentes, puisque c'est vrai que le film Indiana Jones le premier, ni aucun des autres, ne ressemble pas du tout à une série B. Au contraire, même si Spielberg arrive à tourner très vite avec des moyens contrôlés, c'est pas des petits moyens, mais c'est des
20
moyens
millions
contrôlés,
de dollars, hein,
voilà. Eh bien, il donne à ce film le cachet d'une série A hollywoodienne, pas du tout une série B. C'est-à-dire qu'il va aussi prendre ses propres inspirations, Michael Curtis, Casablanca, les grands travelling de David Lean, par exemple, qu'on peut voir dans Lawrence d'Arabie. Tout ça, Spielberg va réussir à le réutiliser pour Indiana Jones et donner à ce film une sorte de sophistication qui n'est pas du tout présente dans l'inspiration des serials des années 30 et 40.
Est-ce qu'on peut dire, sans trop exagérer, que c'est le film, et je vous pose la question à tous les deux, le film qui va transformer Spielberg, et à commencer par sa méthode de travail, parce qu'il a une terrible réputation. Alors, on parlait de l'échec, bien sûr, de 1941, mais si on lit Peter Biskind, il est réputé comme étant caractériel, presque sadique avec ses équipes. Je me souviens qu'à la fin du tournage des Dents de la Mer, je crois qu'il part deux jours plus tôt, parce qu'il a peur que son équipe veuille le noyer ou le tuer. Enfin, il est un peu paranoïaque, etc. Et là, on a l'impression, enfin, quand on voit votre documentaire, Antoine, que c'est un film vraiment qui va faire de lui un autre réalisateur.
Oui, c'est une bascule hein, complète pour lui, notamment parce qu'il a peur de décevoir George Lucas.
Ah,
c'est-à-dire que George Lucas et lui sont amis depuis un bon moment. Ils font un peu partie des mêmes groupes de jeunes réalisateurs qui démarrent tous au même moment. Et finalement, George Lucas est celui qui lui redonne sa chance, parce qu'après 1941, il est un petit peu grillé au sein des studios où le génie pèse assez peu vis-à-vis de sa tendance ultra dépensière et un peu incontrôlable. Et donc, il s'oblige lui-même à réduire le nombre de prises. Il s'oblige lui-même à ne pas suivre le plan de travail de manière stricte, à peut-être changer une scène parce que finalement, elle va être trop compliquée ou trop longue à tourner. Et en fait, il invente beaucoup. Je pense qu'il passe beaucoup de temps à se dire « Ok, comment je peux faire pour être efficace ?» avec toujours cette idée que c'est son ami qui le produit et qu'il lui a promis qu'il ne le dépasserait pas. Et à partir de là, il se prouve à lui-même qu'il est capable de tourner vite, bien, et ça va même un petit peu redéfinir son style. C'est-à-dire qu'à partir de là, il va savoir tourner de cette manière-là et ça va devenir un des cinéastes les plus efficaces en termes de production.
Et c'est vrai que cette manière de tourner rapidement en fait rejoint aussi le projet stylistique du film, c'est-à-dire que le film doit être très emporté dans son mouvement, c'est pas un film qui doit être extrêmement précis, etc. Alors c'est vrai que quand on voit le film, on peut voir hein, la virtuosité spielbergienne à l'œuvre, et puis comme je disais, ce style quand même très raffiné, mais l'envie de vitesse, un petit peu le sentiment de la course-poursuite en fait était présent presque sur le tournage, et cette sensation-là se retrouve bien à l'écran, en fait.
Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'arche d'alliance, l'arche perdue.
Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche.
Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche ? Voulez-vous vraiment savoir ? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu.
Une armée qui se ferait précéder de l'arche.
Voilà, la bande-annonce en français, donc c'est effet vintage, effet nostalgie garantie des aventuriers de l'arche perdue. Le film, c'est un succès immédiat, alors que c'était pas donné, aucun des studios ne voulait le produire.
Antoine, alors aucun des studios ne voulait le produire parce que finalement les références de George Lucas et Steven Spielberg pour Indiana Jones sont des références datées. C'est-à-dire que les céréales dont on parlait tout à l'heure sont passées de mode parce qu'en fait c'était vraiment avant l'avènement de la télévision. C'est-à-dire que ces films étaient passés au cinéma, ensuite étaient rediffusés à la télévision, mais tout le monde n'avait pas de poste. Et donc c'était comme des grands feuilletons vite fait, pas forcément bien fait. Et l'autre grande référence, c'était les films d'aventure qui avait connu un âge d'or entre les années 30 et disons les années 50-60 et qui à un moment était complètement tombé en désuétude, hein, qui avait été balayé par le nouvel Hollywood, par une forme de réalisme. Et donc quand il se pointe, George Lucas, quand il se pointe avec le scénario et son idée de film dans les différents studios, on le regarde en se disant non mais ça va jamais marcher ton truc. Et donc ils ont beaucoup de mal à le produire, personne n'y croit. Finalement, quand ils trouvent un studio, ils s'engagent à faire le film pour pas cher, avec des pénalités très fortes. C'est-à-dire que s'ils dépassent, pour le coup, le nombre de jours de tournage, s'ils dépassent le budget, on leur prend voilà, de l'argent personnel, etc. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande confiance. Personne ne pense que ça va être le carton que ça a été.
Et c'est le carton dans le monde entier ? C'est dans le monde entier
Ah oui, absolument. Juste pour revenir peut-être un instant sur le montage financier, c'est vrai que les financements des aventures de l'Arche perdue, c'est un exemple que Lucas prend souvent pour raconter un petit peu le décalage extraordinaire qui existe pour lui, à ses yeux, entre les créateurs, les créatifs, les artistes, les cinéastes et les financiers des studios qui, en fait, ne pensent pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il prend cet exemple sur les aventures de l'Arche perdue en disant « ce film, je peux le faire » avec Steven Spielberg, pour 20 millions de dollars, donc une somme réduite, une somme mesurée pour un grand film comme ça. Et en fait, les patrons de studio voient ce qui est décrit dans le scénario et lui disent, ben, on n'y croit pas. C'est-à-dire que, par exemple, cette scène avec l'avion nazi géant, ça, on peut pas le faire avec le budget que vous nous proposez. Et Lucas dit, mais qui a dit qu'on avait besoin pour faire cette scène de construire l'avion en entier? Et Lucas propose de construire justement juste la moitié, juste une aile de l'avion et de réussir à suggérer l'ensemble de ce décor, donc spectaculaire, avec simplement des bribes qui sont en fait des recettes vraiment de cinéastes, de personnes qui savent monter, qui savent créer des images, et un financier à Hollywood ne peut pas forcément penser comme ça.
Donc c'est presque une série B.
C'est d'une certaine manière vraiment une sorte de fusion entre des envies de série B, mais aussi un grand savoir-faire de cinéaste, en fait. C'est surtout ça, c'est vraiment cette idée que réussir à montrer autant. En fait, le film ne semble pas être fait avec des petits moyens du tout, mais simplement, il y a aussi cette scène du début, hein, la fameuse scène avec la boule géante de pierre, qui semble être une grande scène. Eh bien, c'est aussi le montage, le cadrage, les différents angles qui font qu'on a l'impression que cette boule dure sur plusieurs dizaines de mètres, alors qu'en réalité, ils avaient construit qu'un petit tronçon de ce décor. Donc c'est vraiment le savoir-faire des cinéastes qui est à l'œuvre.
Et ce qui est rigolo, c'est que ça a vraiment aussi... alors il y avait déjà eu Star Wars où il n'avait pas eu beaucoup de confiance déjà des studios, mais c'est vrai que ça va installer chez ces deux producteurs-réalisateurs, parce qu'à l'époque, George Lucas, lui, a décidé qu'il ne réaliserait plus. Hein, après Star Wars, il est un peu... Il est vacciné, en tout cas. Les deux vont devenir très indépendants dans leur manière de fonctionner et ça va devenir vraiment pour eux deux une manière de fonctionner qui va être de dire ok, nous on a besoin d'indépendance. Ils ne font pas confiance aux gens des studios et George Lucas dira toute sa vie très régulièrement que les gens des studios n'y connaissent rien.
Et puis donc, ils imposent Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. Pour nous, c'est inconcevable d'imaginer un autre acteur dans ce rôle. Et pourtant, ce que vous montrez dans votre documentaire, Antoine Coursat, ce n'était pas du tout le premier choix de l'équipe.
George and I had tested a lot of potential Indiana Joneses, from Tim Matheson to Peter Coyote to Tom Selleck.
Look, I did what I did. I don't expect you to be happy about it. But maybe it can do us both some good.
Why start
Just
now?
Just shut up! Shut up and listen to me. Now I need that piece your father had.
À l'issue de ses essais, c'est Tom Selleck qui avait décroché la timbale. Mais Harrison Ford peut lui dire merci d'avoir signé juste avant pour une petite série télé dont il ne pouvait se désengager.
Donc Antoine Coursat, heureusement que l'inspecteur Magnum a eu du succès.
Sinon, on avait Tom Selleck. Heureusement qu'il avait signé, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'il aurait du succès. Mais oui, pour deux raisons. La première, c'est qu'en fait, Harrison Ford était le premier choix de Steven Spielberg. Sauf que George Lucas ne voulait absolument pas que son Han Solo, parce qu'il avait déjà fait les deux premiers Star Wars, et un autre personnage, surtout produit par lui. Donc il était très réticent à l'idée de faire tourner Harrison Ford. En revanche, ce qui est sûr, c'est que Tom Selleck, qui est un super acteur, hein, qui porte aussi une grande ironie, etc., mais il lui manque la dimension enfantine qu'amène Harrison Ford au personnage. Et je crois qu'une des choses qui a beaucoup marqué et plu aux gens dans Indiana Jones, c'est cette double dimension du personnage, c'est-à-dire qu'en même temps, voilà, il est gaffeur, il est un peu prétentieux, il est un peu comme un gamin sur plein de choses, et en même temps, il est aussi très adulte et très mature. Et c'est cet équilibre entre les deux qui est porté par Harrison Ford qui fait que ce personnage est assez génial.
Et Clément Safra, vous, dans votre dictionnaire Spielberg, vous racontez que le personnage, et donc Harrison Ford s'y coule à merveille, c'est aussi un personnage syncrétique, au sens où il y a des grands inspirateurs, des grands acteurs des films d'aventure des années 50, je pense à Tyrone Powell, Charlton Heston et Humphrey Bogart. Qui ont pu servir d'inspiration.
C'est vrai que dans le look du personnage, son apparence, on a vraiment une sorte de fusion du héros d'aventure des années 30, des années 40. Et pour revenir sur cette idée de casting et sur ce qu'a pu apporter Harrison Ford, c'est vrai qu'en fait, Tom Selleck, qui semble être incongru aujourd'hui dans le rôle d'Indiana Jones, ressemblait assez fortement au premier concept art, au premier dessin, en fait, du personnage qui avait été réalisé avant le casting. C'est-à-dire que c'était Indiana Jones, un héros quand même assez viril, peut-être avec cette moustache justement de Tom Selleck. Et c'est vrai que la partie un petit peu plus humaine, le personnage qui a des failles, etc., c'est vraiment l'apport de Spielberg, je crois. C'est vrai que Spielberg, son cinéma, on peut un petit peu le comprendre avec cette notion que c'est en fait le grand spectacle, mais à hauteur d'homme. Et c'est vrai que Indiana Jones montre bien ça. C'est vrai que c'est un héros qui va tomber, qui va chuter, qui va se prendre des coups, qui va être drôle à ses dépens. Et donc cette dimension humaine, cette dimension faillible en fait que ce n'est pas un super-héros mais au contraire vraiment un héros humain dans lequel on peut se reconnaître.
Alors avant de parler du rapport d'Indiana Jones avec les femmes, on va écouter une nouveauté musicale, justement La Femme, hein, nouvel album de ce groupe et ce titre Va. Vous êtes bien sur RFI à l'écoute de tous les cinémas du monde pour parler d'Indiana Jones, 40 ans cette année. Alors à propos de femmes, hein, puisqu'on l'avait évoqué, les relations d'Indiana Jones avec la gente féminine sont pour le moins contrastées.
Indiana Jones. Always knew someday you'd come walking back through my door. I never doubted that. Something made it inevitable. So what are you doing here in Nepal?
I need one of the pieces your father collected.
I learned to hate you in the last 10 years.
I never meant to hurt you.
I was a child. I was in love.
Voilà Indiana Jones hein, qui retrouve au Népal un amour de jeunesse, Marion, et qui se prend à un direct du droit. Antoine Courçail, il est macho, un peu misogyne, Indiana Jones.
Comme tous les héros d'aventure qui l'ont précédé, il est extrêmement macho. Bon, c'est aussi ses relations chien et chat avec les femmes qui le rend si touchant, si drôle, et ça, voilà, ça le rend fragile aussi parce qu'on voit bien qu'il est loin d'être parfait. Donc on lui pardonne beaucoup de choses parce que justement on voit bien qu'avec les filles, il a beau être très sûr de lui, ça marche pas forcément. Donc il est effectivement assez macho, mais je pense qu'il est aussi un peu à l'image de ces deux créateurs qui sont quand même un peu des geeks, qui sont pas toujours très à l'aise avec la gente féminine. Et voilà, je sais que Spielberg, par exemple, a souvent fait allusion à d'autres cinéastes qui savent dépeindre une relation amoureuse. Lui ne savait pas. Donc c'était presque plus facile pour lui d'avoir un personnage comme ça qui était tout le temps en opposition avec son amoureuse, entre guillemets, parce qu'à chaque Indiana Jones, à chaque épisode, il change d'amoureuse, que de tisser des relations plus sensibles, on va dire.
Est-ce que Steven Spielberg change de style entre les visuels, entre les différents films de la saga? Clément Safra, je crois que vous l'évoquez dans votre dictionnaire, que sa grammaire visuelle évolue en fonction des films, des épisodes.
Alors, c'est vrai que les environnements, les histoires sont assez différentes. Hein. Dans le deuxième, on bascule dans un monde infernal, dans une sorte de temple maléfique, le temple maudit, vraiment. Donc là, c'est vrai qu'en termes de décor, on a d'autres couleurs, on a d'autres éléments, le feu prédomine, etc. Après, en termes de grammaire cinématographique pure, le style de Spielberg dans les trois premiers, peut-être un peu aussi dans le quatrième, quoique là ça a déjà changé, est un style qui va rester très descriptif, très très assez en retrait en fait, qui va être pour l'efficacité de la description de ce qui se passe, de l'action. C'est vrai que c'est pas un cinéaste qui va forcément tenter des nouveautés formelles à chaque film. Hein. C'est un raconteur d'histoire avant tout, donc c'est vrai que c'est ce qui se passe qui compte pour lui. Là où il y a une vraie rupture, je trouve, c'est plutôt avec le quatrième qui forcément est des années plus tard et le style du cinéma hollywoodien a changé par la force des choses. C'est-à-dire que là, on est passé au cinéma numérique hein, pour ce qui est de la création des scènes spectaculaires, des scènes d'action. Et ça, c'est vrai que ça fait changer le style d'Indiana Jones. Hein. Le côté artisanal des trois premiers est perdu avec ce quatrième épisode où les envies esthétiques des auteurs, Lucas et Spielberg, ont changé et se sont rapprochés du cinéma numérique. Et forcément, le film est un petit peu différent des trois premiers, formellement.
La recette des Indiana Jones, on l'a un peu évidemment évoquée, hein, c'est notamment que ça va vite. Hein, le héros se retrouve coincé dans les situations les plus impossibles, l'action est trépidante. Spielberg filme des courses-poursuites, des cascades sur des ponts de singes ou un chariot de mine lancé à toute vitesse.
Entre Grand 8 et Train Fantôme, ce style pose les prémices d'un cinéma parc d'attractions que Spielberg parachèvera avec Jurassic Park. À partir de maintenant, on va aller au cinéma, comme on va à Disneyland.
Initially, the idea was to figure out what it was about roller coaster rides that made them so exciting for the riders.
L'idée, c'était de comprendre ce qui rend les montagnes russes aussi excitantes pour les gens. Alors, j'ai pris un caméscope et je suis allé à Disneyland. D'abord, j'ai filmé avec la caméra fixée à l'avant. Ça m'a rappelé les scènes de poursuite que je regardais enfant.
Chase scenes that I'd seen when I was younger that I was always frustrated to see a shot.
C'était toujours frustrant de voir l'action depuis l'avant de la voiture et de ne pas voir les virages avant de les atteindre. Alors ensuite, j'ai filmé en anticipant les courbes. J'avais l'intuition qu'une part du suspense de la séquence naîtrait du fait de vouloir voir les virages avant de les prendre.
Trying to see what was around the curve before you were actually there.
Voilà un extrait de votre documentaire, Antoine Courçail. Celui qu'on a entendu, c'est Michael McAllister, le chargé des effets visuels, qui explique comment il a pu restituer l'impression que l'on a sur des montagnes russes, en fait.
Exactement. Et ils ont vraiment, en tout cas, Spielberg a vraiment très vite cette idée de cinéma un peu parc d'attractions. Il cherche de l'excitation. Et dans le rythme du film, trépidant, qui va même être parfois un peu, pour certains spectateurs, too much dans le deuxième. Il cherche toujours à ce que chaque scène ne soit jamais refermée, c'est-à-dire qu'on referme un piège, il y a quelque chose qui se... Tac, il y a un autre piège qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment une... Je trouve que voilà, c'est là où ce film aussi inaugure vraiment les années 80. On arrive dans l'ère du cinéma grand spectacle.
Et il réinvente presque le genre du film d'aventure, parce qu'Indiana Jones aura beaucoup, beaucoup d'avatars, hein, de Crocodile Dundee à la poursuite du diamant vert. Hein. J'y pensais tout à l'heure quand vous parliez des rapports hommes-femmes, toujours un peu de la romance, mais toujours métissée de comédie.
Oui, absolument. C'est vrai que, bah oui, effectivement, il y a eu beaucoup d'ersatz d'Indiana Jones qui ont plus ou moins de succès. C'est vrai que les scènes d'action, les grandes scènes d'action structure vraiment le récit. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est ça qui est la première idée du scénario, ce sont ces scènes d'action. Et ensuite, l'histoire est un petit peu brodée autour. Notamment dans le deuxième, le temple maudit, c'est vrai que ce paroxysme sur le pont de cordes, c'est vraiment l'idée un petit peu qu'ils avaient envie de faire pour le film à l'origine. L'histoire est ensuite construite autour de ça. Donc c'est vrai que les scènes d'action, les grands moments visuels comme ça, sont un petit peu l'essentiel de l'écriture. Et le reste, c'est vraiment de trouver un lien entre des scènes d'action qui, normalement, une seule suffirait à rendre un film d'aventure excitant. Mais là, évidemment, on est dans la multiplication des scènes d'action jusqu'à l'épuisement, en fait.
Et quand on parle des héritiers, alors là, c'est typique des studios hollywoodiens. C'est-à-dire que Indiana Jones marche formidablement bien. Et ce genre qui était considéré comme ringard, tout d'un coup, redevient le genre sur lequel tout le monde va miser. Et donc, on va avoir effectivement tout un tas d'héritiers plus ou moins réussis. Mais même s'il va y avoir tout un tas de films charmants, comme La poursuite du diamant vert, je crois que l'alchimie extrêmement réussie entre ces différents genres que permet Indiana Jones, où il y a de l'horreur, où il y a du fantastique, où il y a de l'aventure, où il y a tout un tas de références à plein de genres cinématographiques différents, sera jamais égalé. Et c'est pour ça qu'Indiana Jones reste l'aventurier référence.
Vous pensez qu'il le sait déjà ou qu'il en a l'intuition, George Lucas, quand il commence cette saga, qu'il va faire basculer Hollywood du côté... d'un autre côté, dans une nouvelle ère, l'ère du divertissement? Bon, on a beaucoup parlé de merchandising, ça c'était déjà en cours avec peut-être la guerre des étoiles, hein. C'était déjà dans ses gènes.
Lucas, pour comprendre le personnage, il faut se rappeler que c'est le plus farouchement indépendant de toute la bande du nouvel Hollywood, hein, donc Francis Coppola, Steven Spielberg, Martin Scorsese, ont tous cette volonté d'être indépendants des studios, de raconter leur propre film, leur propre histoire, sans interférence. Et Lucas, c'est vraiment celui qui a ce désir le plus profondément affirmé. Donc c'est vrai qu'en fait, Lucas a avant tout cette idée de protéger ce qu'il va faire, pour pouvoir faire exactement ce qu'il veut. Alors effectivement, il y a une dimension de plaire au plus grand nombre aussi, mais c'est presque intrinsèque au concept. Si vous voulez, par exemple, dans le cadre de Star Wars, c'est censé être un mythe moderne. Donc le fait que le public s'y retrouve, ça fait presque partie de l'équation de départ. Indiana Jones, c'est quelque chose d'un petit peu plus personnel, comme ça. C'est pour retrouver, comme c'est dit dans le film, dans le documentaire, des sensations d'enfant. Mais c'est vrai que ce rapport au public dans lequel il se situe, en fait, est très important. C'est-à-dire que c'est des cinéastes qui se situent du côté du public et qui veulent faire ce qu'ils ont envie de voir comme film. Donc très naturellement, vu leur talent, leur réussite artistique, ils arrivent à ce but et les films deviennent des phénomènes de société.
Et puis Indiana Jones est vraiment en phase avec son époque.
Détournant allègrement les grands classiques de la littérature d'aventure, la visée de ce genre n'était évidemment pas toujours innocente. Car l'aventurier made in Hollywood était aussi là pour dompter la barbarie du monde avec les bonnes vieilles valeurs américaines. Une idéologie un brin impérialiste qui se retrouve à nouveau à l'ordre du jour avec les années Reagan, lorsque naît Indiana Jones.
Alors voilà, ça m'a intéressé aussi dans votre documentaire, Antoine Coursat, cette réflexion, parce qu'effectivement, c'est un héros vraiment universel, Indiana Jones, ou un représentant de l'impérialisme américain ?
C'est les deux. C'est là où ils sont quand même très forts. Effectivement, eux deux, ce qui est rigolo en plus, c'est que ce sont deux figures démocrates. Ils vont très souvent prendre la parole, apporter leur soutien aux candidats démocrates, etc. Mais ils vont quand même créer un héros, qui est un héros passéiste, qui est un héros qui représente cette Amérique redresseuse de tort, qui va exporter ses valeurs, qui va aller lutter contre le mal. Il y a presque une dimension messianique. Hein. D'ailleurs, on le voit dans le deuxième épisode, quand il ramène tous les enfants qui ont été enlevés par cette secte barbare, et que c'est lui qui apparaît en premier, puis derrière il y a cette vague de gamins qui courent, et puis on a tous les habitants du village qui voilà, tout d'un coup les visages s'illuminent, on sort de l'obscurantisme, les enfants reviennent, l'eau se remet à couler, etc. C'est le sauveur blanc, et en plus de ça il a souvent droit à un petit coup de pouce de Dieu. Quasiment dans tous les épisodes, à un moment, il y a une petite dimension comme ça, religieuse. C'est complètement hérité aussi de ce cinéma américain classique des années 30 aux années 50, où c'était le seul cinéma qui était un petit peu mondialisé, et où l'Amérique cherchait à apparaître comme la nation libératrice, la nation référente.
Clément.
En même temps, c'est vrai que c'est aussi un personnage qui est respectueux de la culture, qui est un savant, c'est un professeur d'université. Et Harrison Ford réussit à être très convaincant dans ce rôle-là, le rôle de l'intellectuel, mais qui est aussi donc un pilleur de tombes. Un pilleur de tombes, mais qui n'est pas là pour justement revendre les pièces dans les musées, mais justement pour comprendre mieux ces cultures, pour les valoriser, pour mettre les artefacts dans des musées, etc. Donc il y a cette idée de quand même un héros qui est un intellectuel, hein, il faut le dire, et d'ailleurs c'est et aussi également montré dans le documentaire, c'est un personnage qui a été à l'origine de nombreuses vocations d'archéologue. Dans le troisième épisode, il se l'est confronté à son père, qui est un encore plus éminent savant. Donc vraiment, il y a cette notion d'aller rechercher dans le passé, d'aller rechercher dans les mythes, d'aller rechercher dans la culture ancienne, dans la culture européenne, des choses comme ça qui sont apportées, qui sont montrées au public de Spielberg et Lucas, qui est donc un public, qui est donc le grand public américain, qui n'est pas a priori familier de ces références-là. Et donc le film va en donner une vision magnifiée et puis extrêmement séduisante. Et enfin, la dimension mystique est fondamentale, parce que c'est vrai que dans chacun des épisodes, Indiana Jones, qui est un pragmatique, qui est un savant, un scientifique, va connaître une révélation mystique. C'est-à-dire que pour lui, les pouvoirs surnaturels des objets en question, que ce soit l'Arche d'Alliance, tel ou tel artefact, sont des légendes, des contes de fées auxquels il ne croit pas. Et il va justement être confronté directement à la magie de ces objets. Et là, on est vraiment dans le registre spielbergien de la révélation surnaturelle qui va changer sa perception du monde.
Ça interroge sa foi d'ailleurs, parce que il n'y croit pas. Voilà, c'est un pragmatique et en réalité, chaque épisode va lui prouver la véracité de l'existence de quelque chose de plus grand que nous.
Alors il y a un cinquième film, on le disait, qui est annoncé, je sais pas, on n'a pas encore la date, mais vous me disiez hors antenne, Antoine Coursat, que le réalisateur, ce ne sera pas Spielberg.
Non, au départ, Spielberg a envisagé de le faire, il y a renoncé, alors officiellement je crois pour des questions d'emploi du temps, mais finalement c'est James Mangold, qui est un réalisateur très intéressant, qui a récupéré le bébé. Intéressant parce que c'est un cinéaste dont on peut dire un petit peu qu'il est presque spécialisé dans les héros fatigués. C'est-à-dire on l'a vraiment, il s'est révélé au monde avec Copland, qui a été le film qui a permis de redonner toute sa place à Sylvester Stallone, en le montrant beaucoup plus fragile, plus gros, plus lourd, plus vieux. Il a aussi fait ce film dans la série des X-Men qui s'appelle Logan, qui s'intéresse à Wolverine, et qui est pareil, qui est un film assez sombre, qui est un film qui interroge l'intimité de ce personnage. Et donc, voilà, moi je suis très curieux, j'attends de voir. Je pense que c'est plutôt une bonne chose, Il y a eu des, pour reparler de Stallone, il y a eu comme ça, tout d'un coup, la possibilité, je trouve, avec Rocky, quand il y a eu un nouveau réalisateur qui est arrivé, quand il y a eu Creed, de relancer une dynamique. Indiana Jones a vieilli, hein, avec son interprète. Mais si ça doit être une franchise qui doit survivre à Harrison Ford, c'est intéressant que ce soit des gens différents, plus jeunes peut-être, avec un regard différent qui arrive.
Clément.
Voilà, non seulement Spielberg ne réalisera pas celui-là, mais il y a aussi une grosse question sur l'implication de George Lucas dans l'aventure, dans la mesure où la grosse différence avec les quatre premiers épisodes, c'est que Indiana Jones ne lui appartient plus. Lucas a vendu ses personnages, sa marque, son studio au studio Disney, et donc le Indiana Jones en question, Lucas ne va pas en faire partie. On ne sait pas s'il va lui-même écrire une histoire. En tout cas, Spielberg avait signifié très clairement que faire un Indiana Jones sans George Lucas ne l'intéressait pas, ce qui prouve encore une nouvelle fois que la double paternité du personnage est essentielle dans ce film, vraiment ces films à quatre mains où les deux créateurs sont à égalité.
Affaire à suivre évidemment, on attend ce cinquième film néanmoins avec beaucoup de curiosité, effectivement, James Mangold et Harrison Ford qui a de toute façon lui signé, on sait qu'il sera de l'aventure même si à plus de 70 ans, je crois, il ne fera pas les mêmes types de pirouettes ou de cascades.
Mais peut-être qu'il pourrait avoir un fils ou une fille, non ?
Il avait un fils dans le 4. Dans le quatrième, je suis pas sûr que l'acteur qui jouait son fils va être intégré au cinquième parce qu'il est quand même un peu sorti des films grand public. C'est pas évident tous ces films, et d'ailleurs c'est pour tout un tas de franchises que la question se pose, parce que effectivement dans les années 80 on a vu apparaître comme ça des grands héros, puis aujourd'hui ces grands héros, leurs interprètes, on a vu ça aussi avec Star Wars, il faut réussir entre guillemets à les tuer. Est-ce que les franchises vont y survivre ?
À suivre, donc.
Oui, mais ça, à la différence de Star Wars, qui était conçu par Lucas comme une histoire close, en fait, vraiment comme un mythe avec un début, un milieu, une fin, axé sur le personnage donc, de Dark Vador, de son enfance jusqu'à sa mort, Indiana Jones est conçu à l'origine comme un personnage sériel, justement, qui peut être a priori décliné à l'infini. Donc pourquoi pas de nouvelles applications du personnage ?
Antoine Coursat et Clément Safra, merci. Indiana Jones à la recherche de l'âge d'or perdu, votre documentaire inédit, Antoine Coursat avec Cléa Cohen aussi à la réalisation, est disponible jusqu'en juillet sur la plateforme arte.tv. Et votre dictionnaire Spielberg, Clément Safra, est publié, je le rappelle, aux éditions Vendémiaire. Une pause musicale dans tous les cinémas du monde, une nouveauté, Rover avec To This Tree. Rover, un extrait de son nouvel album To This Tree. Et maintenant, avec vous, Elisabeth, le journal du cinéma. Et pour commencer, la fin probable d'une vénérable institution.
Oui, vénérable. Depuis 77 ans, il récompense les meilleurs films et les meilleures séries télévisées de l'année. Un palmarès que scrutaient tous les professionnels, puisque en matière de films, ils étaient censés préfigurer les Oscars. Les Golden Globes, puisque c'est bien d'eux que l'on parle, Sophie, étaient depuis longtemps déjà sous le feu des critiques et des accusations.
Et au cœur du cyclone, l'association qui constitue le jury des Golden Globes, l'association de la presse étrangère à Hollywood.
Oui, accusé de discrimination, de sexisme, de manque de transparence, violemment critiqué par des stars hein, comme Scarlett Johansson ou encore Tom Cruise. Et cette semaine, le coup de pied de l'âne, la chaîne NBC vient d'annoncer qu'elle ne retransmettra plus la cérémonie.
Oh là là, ça sent le roussi, hein, d'autant qu'une grande partie du budget de l'association venait de ses droits de retransmission.
Oui, en plus, Tom Cruise vient de rendre ses 3 Golden Globes, ce qui ne sent pas très bon non plus.
En France, J-4 pour les salles de cinéma.
Et oui, après plusieurs mois de fermeture, 7 mois, elles vont enfin pouvoir rouvrir mercredi prochain à condition de respecter un protocole sanitaire strict, hein, fixé à 35% de la capacité d'accueil des locaux. Pour cette première semaine, donc, un peu plus d'une trentaine de titres seront programmés. 10 nouveautés auxquelles s'ajoutent une bonne vingtaine de ressorties. Donc les ressorties, en fait, Sophie, ce sont ces films qui étaient à l'affiche à l'automne et donc qui n'ont eu que quelques semaines, enfin voire quelques jours hein, de présence sur les écrans. C'est le cas entre autres de Drunk de Thomas Vinterberg, distribué par Carole Scotta pour la société Haut et Court.
Évidemment, on a tous très très envie d'être au 19 mai et de retrouver le chemin des salles. Et puis avec un peu d'inquiétude aussi, même beaucoup d'inquiétude, parce que ça va être une situation diamétralement opposée à celle qu'on a vécue l'an dernier, puisque là, on a énormément de films qui sont sur les starting blocks, qui veulent sortir et qui doivent sortir, parce qu'ils sont, ils sont confinés, nos films, depuis des mois. Donc ça va être un peu difficile de trouver son chemin au milieu de tous ces films. Pour les spectateurs, ça va être plutôt une situation assez inédite, où il y aura tellement d'offres qu'il ne faudrait pas que ça fasse comme les faits où quand on passe une demi-heure devant Netflix à choisir son film. J'espère que les spectateurs sauront eux aussi faire leur choix facilement, mais il y aura plutôt une pléthore de films. Donc voilà, notre crainte, c'est que tous les films ne puissent pas être vus,
trouver leur place,
avoir un peu de durée. On a vu quand même, c'est très intéressant, quand on a vu sortir des films en août, septembre, octobre dernier, on voyait que finalement l'absence de blockbusters américains donnait plus de place aux productions européennes, françaises, et que finalement le temps était vraiment un facteur qui permettait au bouche à oreille de se développer, aux spectateurs de prendre le temps d'aller voir le film. Et on a vu des entrées sur certains films qui étaient même au-delà de ce qu'ils auraient fait en temps normal. Donc voilà, nous on sort on ressort Drunk, on est plutôt confiant sur l'envie des spectateurs de voir le film. Je crois que c'était un parfait film de confinement et ça sera un parfait film de déconfinement. Donc de ce point de vue-là, je suis pas trop inquiète. Mais voilà, on a plein de films à sortir et on espère qu'on va réussir à les sortir correctement.
Voilà, Drunk hein, de Thomas Vinterberg à l'affiche de nouveau le 19 mai prochain, donc mercredi prochain. Lui, on se souvient de ses larmes au journal de 20h en apprenant la fermeture des salles de cinéma en octobre dernier. L'acteur Nicolas Maury, connu du public notamment pour son rôle dans la série 10%, déplorait que son premier film de réalisateur, donc Garçon chiffon, n'ait pas eu plus que 2 jours d'exploitation.
Ça raconte quoi ? Tu me fais le speech ?
Le pitch.
C'est l'histoire d'un jeune homme mélancolique dans un monde hostile qui va se suicider.
Voilà un extrait de la bande-annonce de Garçon chiffon, un premier film très personnel de Nicolas Maury. Nicolas Maury qui se prépare à accompagner de nouveau son film. Il attend la réouverture des salles avec une joie modérée, un chat échaudé craignant l'eau froide.
On parle quand même d'un premier film, hein, donc c'est quand même très particulier. Et ensuite, on nous avait donc fait miroiter cette réouverture mi-décembre. Donc moi, j'avais réengagé en fait une promotion, etc. Et hop, ça n'a pas eu lieu. Et donc là, j'avoue, moi, je me protège un peu. Je sais que ça va réouvrir le 19, mais vous voyez, mon cerveau, mon inconscient me dit non, ne t'emballe pas trop. Donc voilà. Voilà dans l'état d'esprit dans lequel je suis. Je ne peux pas être dans la joie puisque ce serait une joie prévisionnelle et ça ne me ressemble pas. Je préfère être dans la joie de l'instant et comme je vais accompagner mon film tout au long des jours qui vont être à partir du 19 en France, voilà, j'essaierai de mesurer à ce moment-là. Rappelez-moi à ce moment-là, je vous parlerai de ma joie.
Parce que vous allez vous rendre dans les salles à la réouverture ?
Bien sûr, je vais faire mon petit marathon chiffon. J'avais initié ça le 28 et là je reprends exactement C'est comme un pacte entre les exploitants, les salles et moi, et puis évidemment mon distributeur, le Losange. Et on reprend cette tournée. Donc ce sera une tournée toute la journée. Je vais aller dans certains MK2, certains autres cinémas, UGC, la journée du mercredi à Paris. Et puis après, au fil des jours, je vais me déplacer en banlieue proche. Je vais aller à Caen, à Nancy. Voilà, moi je fais un film, comme je viens aussi du théâtre, pour rencontrer les gens, c'est-à-dire... C'est pas par narcissisme, c'est pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Je trouve ça toujours hyper beau de sentir la vibration post-projection. Donc voilà, je vais accompagner mon bébé, quoi.
Voilà. Alors si vous allez voir Garçon Chiffon à Paris, vous aurez peut-être la surprise de croiser Nicolas Maury. En tout, 450 longs métrages sont en attente de sortie en salle. C'est dire si l'été risque d'être meurtrier. De quoi donner le tournis aux spectateurs, mais aussi aux professionnels qui craignent pour leur film une diffusion écourtée. Au vu de l'immense embouteillage qui se profile pour juin et juillet, et puis même pour août. Alors on termine ce journal au Togo. Au Togo, où 10 jeunes de 20 à 30 ans venus de 5 pays d'Afrique, Bénin, Burkina Faso, République démocratique du Congo, Sénégal et donc Togo, sont en apprentissage d'écriture de séries d'animation. Pendant 4 mois, ils vont travailler sur la saison 2 de la série Junior des idées en or. Peter Sassou Dogbe les a retrouvés en plein atelier dans un cadre idyllique à 1h30 de route à l'est de Lomé.
Dans la villa Ségure, située au bord du lac, à 22 km à l'est de Lomé, généreusement prêtée par la journaliste Sophie Ekwe, la chaleur moite de la journée est rythmée par le chant des tisserins gendarmes qui nichent dans les cocotiers environnants. Les jeunes, 5 demoiselles et 5 jeunes hommes, apprennent à écrire des scénarios d'animation. Ce lundi, comme chaque semaine, 2 ateliers sont au programme. Dans ce premier atelier, les 5 jeunes scénaristes modifient les travaux de la semaine précédente.
Il n'y a pas de difficulté majeure, il n'y a pas de rejet de la part de la chaîne. Voilà, donc on va faire le job, comme d'habitude. On livre vendredi.
Pour Christophe Guignement, responsable de la formation, ils doivent chacun écrire un certain nombre d'épisodes dans le cadre du projet pour la chaîne Gulli.
Oui, ils ont à faire 6 épisodes chacun. Nous avons une série de 39 épisodes de 5 minutes. Il y aura aussi un épisode collectif.
Dans la cour de la maison, sous un arbre, au milieu des gazons verts, l'autre atelier discute le pitch d'un scénario fiction. Et très vite, c'est adopté.
Oui, c'est moi qui ai commencé le projet. Du coup,
et c'est pour ça que vous êtes là.
4 mois pour acquérir de nouvelles connaissances. Il faut s'appliquer et suivre la méthode. Odilon et Didi Assou est venu du Bénin. De son expérience, pour avoir déjà participé au FESPACO, il se rend compte qu'il lui reste encore à apprendre.
Quand on suit ce qu'on nous apporte comme enseignement ici, on se rend compte qu'effectivement, on faisait des choses, mais il y a de meilleures manières de présenter cette chose-là. Et c'est ce que j'acquiers comme connaissance ici et qui, positivement, va impacter mon approche à l'avenir quand je vais pouvoir m'avancer sur des projets de séries d'animation.
Tous les 10 ont des rêves et devront s'appliquer. Parmi eux, il y en a qui ont hâte de finir pour reprendre leur projet, comme la Togolaise Dissirama Besoga.
Quand je sors d'ici, je vais me lancer dans la production et je n'ai pas que ça. Je postule à des appels à candidature pour le développement d'autres projets. Voilà.
Un producteur délégué, une chaîne de séries d'animation les attend. Il leur faut démontrer leur professionnalisme en apprenant et en faisant pour se lancer. Peter Sassou Dogbe, Lomé, RFI.
Et c'est sur ce beau projet que s'achèvent tous les cinémas du monde. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Dorlotin, à la réalisation Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma. Nous ferons le point sur la réouverture des salles de cinéma en France et nous recevrons Guillaume Braque pour parler de son film À l'abordage. D'ici là, bonne semaine à tous. RFI.